travers le bâillement d'une porte, l'instant subtil, trop paresseux, d'une pensée à la traîne, comme le crime de l'amour, juste celui de dire « je t'aime » sans être entendu. Comme par miracle, une rose surgit du mur crasseux d'une salle de classe. Alors, évidemment, le « je t'aime » et la rose sont devenus aussi banaux qu'un bouquet de fleurs dans le ciel. Mais c'est un oiseau, madame. Ce n'est pas un bouquet de fleurs. Vous êtes victime d'un mirage ou d'un décalage horaire. Votre « je t'aime » est tombé à l'eau. Faut savoir que les arbres qui se reflètent dans l'eau ne savent pas lire. Vous ne savez pas combien de temps a pris votre pensée avant de se poser sur la poignée d'une porte. Vous ne savez pas non plus qu'une poignée de porte peut s'ouvrir dans l'eau des rêves. Une poignée de porte sirène. Vous n'avez jamais vu ça. J'ai culbuté au fond d'une pensée. Mon rêve était un mouchoir qui tremblait. Quelque chose qui tremble. Vous ne saviez pas. Vous étiez heureux.
Radio Cartable,
la radio des écoles d'Ivry.
Nous sommes le jeudi 18 décembre.
On est dans la classe de moyenne section et de grande section.
Les secrets de l'école.
Les secrets de l'école.
Notre classe a reçu une lettre de monsieur le décideur des cours d'école.
Il y a vite des enfants.
On va avoir un carrousel dans la cour pendant les vacances de Noël.
On a bien mérité. On a bien travaillé et on a été sages.
Ça serait cool.
On ne sait pas comment ils vont l'installer.
On ne sait pas si c'est vrai.
On ne sait pas si c'est faux.
Parce que c'est pas encore installé.
On verra ça à la rentrée du mois de janvier.
Chers auditeurs et chères auditrices, dans le réseau Molière, nous vous lançons un premier défi.
«
Serez-vous cap ou pas cap de donner une seconde vie à vos jouets en faisant un don à une association? Dès maintenant et jusqu'au 15 janvier, vous pouvez déposer vos jouets dans les bacs à collecte présents dans les écoles et le collège du réseau.
On compte sur vous, merci beaucoup.
Radio Libertaire, et c'est l'heure de Radio Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry. Vous venez d'entendre Dans la mer bleue, Pascal Loquin et les enfants de l'école. Bonne écoute.
Voici la météo.
Comme c'est l'hiver, tu prends des gants, des bottes, et comme c'est l'automne, il y a des marrons, il y a des pommes de pin, il y a des feuilles mortes et des branches. Et comme c'est l'été, il y a un chapeau, des crosses, un truc pour t'afraîchir et des lunettes.
Bonjour,
je m'appelle Nahed. Je vais vous présenter la météo d'aujourd'hui au Moulin d'Ivry.
Bonjour, je m'appelle Myriam. Aujourd'hui, il pleut.
Bonjour, je m'appelle Yaren. Il fait très froid, il y a des nuages.
Il pleut deux fois.
On doit porter plein de choses pour nous protéger.
Au revoir et à la prochaine.
Le clown du spectacle. Il se tape sur la tête. Boum. Il se retape sur la tête. Boum, boum.
Et maintenant, mesdames et messieurs, nous allons vous présenter en grande première mondiale le
poème du poète. C'est pour dire tout cela et mille et mille et mille autres choses. T'as besoin de comprendre.
Bonjour, nous nous appelons Céliane.
Et Mohamed, nous allons vous réciter le poème Point de chute.
Voyons, se dit la sorcière en descendant vers la terre.
Si j'atterris sur un clocher, je vais me piquer les pieds.
Si j'atterris dans un trou, je risque de me casser le cou.
Si j'atterris dans la rivière, je vais mouiller derrière.
Voyons, se dit la sorcière, vaut mieux rester en l'air.
Corinne Albo.
When shall we three meet again? In thunder, lightning, or in rain? When the hurly belly's done, when the battle's lost and won.
Nous nous appelons Malika et Rexton. Nous allons vous présenter un dragon chez soi.
Avoir un dragon chez soi,
ce n'est pas si mal que ça.
Surtout quand il fait très froid.
Quand on lui tire sa queue,
ça le rend tellement furieux
que sa gueule crache du feu.
Il réchauffe l'appartement.
Il cherche les vêtements.
Les parents sont tout contents.
Corinne Albo.
Radio Animaux. Radio Animaux. Radio Animaux. Radio Animaux.
Radio Animaux, ça commence.
Allô, allô.
Et je m'appelle Mélia.
Je m'appelle Delania.
Je m'appelle Nimili.
Je m'appelle Maïcha.
Je m'appelle Ismaël.
Je m'appelle Yann.
Je m'appelle Antoine.
Je m'appelle Fatoumata.
Yes.
Je m'appelle Néréo.
Je m'appelle Abdelhamad.
Je m'appelle Léa.
Je m'appelle Alicia.
Je m'appelle Achille.
Je m'appelle Mirac.
Je m'appelle Sekona.
Je m'appelle Anna.
Je m'appelle Amélia.
Vous allez écouter des devinettes préparées par des grandes sections de maternelle.
De l'école Anne-Sylvestre, la nouvelle école d'Ivry. Devinette numéro 1. Quel animal fait ?
Kikiriki. En allemand.
Je te donne un indice. En français, on dit
cocorico.
Devinette numéro 2. Quel animal fait ?
I-A, 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 I-A.
En allemand.
Je te donne un indice. En français, on dit
I-A.
Tu as deviné ? Devinette numéro 3. Quel animal fait ?
Waouh, waouh.
En allemand.
Je te donne un indice. En français, on dit ?
Waf, waf.
Tu as deviné ? Devinette numéro 4. Quel animal fait ?
Coucouc, 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 coucouc.
En allemand.
Je te donne un indice. En français, on dit
coucou, coucou.
Devinette numéro 5. Quel animal fait
pip, 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 pip.
En allemand.
Je te donne un indice. En français, on dit
Pio, 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 pio,
Piou, piou.
Si vous nous écoutez en direct, n'oubliez pas que vous pouvez nous envoyer vos réponses par mail avant 14h50 à l'adresse radio-6cartable@ouvaton.org. Vous participerez ainsi au tirage au sort organisé à la fin de l'émission.
Au revoir.
Radio Animaux.
Je m'appelle Fatou. Moi et moi, chamo Fatou.
Je m'appelle Léo.
Je m'appelle Joanne.
Je m'appelle Sarah.
Je m'appelle Mamadou.
Notre histoire a pour titre
La citrouille à dents rouges.
Il était une fois une sœur avec son frère Amine et ils habitaient à Citrouilleville.
Amine et Lola, ils habitaient dans Citrouilleville.
Ils avaient 5 ans et ils étaient jumeaux.
Et leurs parents leur avaient dit de cueillir des cerises et ils sont y allés et ils ont secoué un arbre rouge.
Et il y a un petit truc qui est tombé, après il a commencé à voir un œil rouge et des dents pointues rouges.
Je vais vous manger!
Les jumeaux ont eu peur, ils ont commencé à courir et la citrouille les poursuivait. Ah, ouf! Ils arrivèrent chez eux. Ils bloquèrent la porte pour pas que la citrouille vienne. Fin.
Actualité
d'ici
et d'ailleurs.
Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur les Flash Info des CE1 de Rosaline Franklin. Aujourd'hui encore, nous vous racontons l'actualité d'Ivry, de France et du monde grâce au magazine Ivry Ma Ville et au journal Le Petit Quotidien, un journal fait pour les enfants.
Que s'est-il passé chez nous à Ivry-sur-Seine?
L'équipe de foot d'Ivry a fait un très beau parcours en Coupe de France.
Elle a été éliminée au 7e tour au pénalty contre les professionnels du Mans.
Bravo à nos joueurs pour ce parcours.
À Esper Robespierre, la 4e édition de Fripalooza a eu lieu.
Il y a 1000 mètres carrés de fripes et plus de 10 000 pièces à chiner.
Le 1er octobre, le maire a inauguré les nouveaux locaux du CMPP Jenny Aubry.
de nouveaux espaces pour accueillir et accompagner les enfants.
Et pour terminer, une histoire qui donne beaucoup de courage.
La mine qui est née sans bras et arrivée du Mali en 2023 s'épanouit aujourd'hui dans le Taekwondo.
Un bel exemple de force et de volonté et d'espoir. Bravo la mine.
Et sinon, quoi de neuf en France?
Pendant le mois de novembre, plusieurs dates étaient importantes.
Le 6 novembre, c'est la journée pour dire stop au harcèlement à l'école.
On apprend à être gentil, à aider et surtout à ne jamais laisser quelqu'un seul.
Un message très important pour tous les élèves.
Le 11 novembre, c'était l'armistice. On se souvient de la fin de la Première Guerre mondiale.
C'est une journée pour rendre hommage aux soldats et rappeler l'importance de la paix.
Une date très importante.
Enfin, le 20 novembre, on célèbre la journée des droits de l'enfant.
Tous les enfants du monde doivent être écoutés, protégés et aller à l'école.
Des droits précieux à défendre partout dans le monde.
Après 13 ans en France, les deux pandas du zoo de Beauval sont repartis en Chine.
C'est leur pays d'origine. Beaucoup de gens sont venus leur dire au revoir.
Un grand voyage pour ces deux stars du zoo.
Au zoo d'Amiens, une exposition de sculptures lumineuses a commencé.
C'est magique la nuit. On peut les admirer jusqu'au 28 mars.
Une balade magique pour les familles.
Passons maintenant au reste du monde.
Cette année, on fête les 100 ans de la découverte de la momie de Toutankhamon.
Il était un pharaon d'Égypte. Sa tombe a été remplie de trésors.
Un trésor histoire qui continue à faire rêver petits et grands.
À Barcelone, la Sagrada Familia est enfin devenue la plus grande église du monde.
Elle est construite
depuis
plus de 140 ans.
Un monument gigantesque qui continue de grandir année après année.
Des scientifiques ont créé un antivenin très puissant.
Il peut soigner contre les 17 espèces de serpents les plus dangereux d'Afrique.
Une découverte qui pourrait sauver de nombreuses vies.
L'ouragan Mélisse a touché plusieurs petites îles.
Beaucoup de maisons ont été détruites. On envoie de l'aide aux habitants.
Courage à toutes les personnes touchées.
Dernière info étonnante, caresser un chat, c'est bon pour la santé.
Ça calme, ça rassure et ça fait du bien au cœur.
Merci les chats.
Merci d'avoir écouté le Flash Info des CE1. À très bientôt pour un nouveau journal.
Actualité
d'ici
et d'ailleurs.
Thank you.
Le slam est un partage oratoire autour duquel chacun s'exprime sur le thème qu'il souhaite, de la manière qui lui convient le mieux en fonction de ce qu'il a à dire. Il y a des mots qui se ressemblent et font penser à la même chose. Ils forment une famille de mots. Les élèves ont du goût, j'y ai goûté, vous dégusterez sans dégoût. Il y a des mots ou des expressions pouvant être employées au sens propre, s'il s'agit de la réalité, nous avons marché. Ou au sens figuré, s'il s'agit d'une image, je t'ai fait marcher. Il y a les niveaux de langue qu'on emploie différemment selon à qui on s'adresse. Le langage familier, le langage courant et le langage soutenu. Il y a des mots de sens différents qui se prononcent de la même façon. Ce sont les homophones qui résonnent. Je mange du pain pendant que mon père peint à l'ombre d'un grand pin. Il y a des mots différents qui ont le même sens tout en apportant quelques nuances. Les synonymes valorisent les dires. Un visage, une figure, un vélo, une bicyclette, une glace, un miroir. Il y a des mots qui délient les langues à toute vitesse avec délice, qui lient les idées en bouche jusqu'à tirer la langue à en perdre haleine. Ce sont les virelangues. Le cri-cri de la crique crie son cri cru et critique car il craint que l'escroc ne le craque et ne le croque. Je suis Piedade Grégory, professeur des écoles à Ivry. Je vous invite à écouter une scène slam en classe où les élèves de CM2A élèvent leur voix depuis le toit de Maurice Thorez. Les thèmes ont été des mots, prétexte à écrire des textes dans le contexte de la finesse du vocabulaire de la langue française. Ils relatent leur vie et les désagréments des villes, ils transcrivent leur éclat autant qu'ils livrent leur claque, ils étalent leurs crises et épatent avec surprise, ils déclament leur slam et disent pour votre plaisir.
Le journal de la création!
Bonjour, nous sommes les élèves du CE1E de l'école Henri Barbus à Ivry-sur-Seine.
Dans notre classe, il y a 13 élèves, 8 garçons et 5 filles, et notre maîtresse s'appelle Majda.
Cette année, nous allons travailler sur Claude Monet, un artiste peintre impressionniste.
Nous allons visiter plusieurs musées et participer à des ateliers.
En septembre, nous sommes allés au musée Marmottan-Monet dans le 16e arrondissement de Paris.
Avant, le musée s'appelait juste Marmottan. Et un jour, le fils de Claude Monet a offert des tableaux de son père au musée.
C'est pour cela qu'il s'appelle aujourd'hui le musée Marmottan-Monet.
Pendant notre visite, notre guide nous a montré trois tableaux. Impression soleil levant, vallée de Sasso et les nymphéas.
En novembre, nous nous sommes rendus au musée de l'Orangerie dans le centre de Paris.
Le musée porte ce nom car avant c'était une serre pour faire pousser des orangers.
Dans ce musée, nous avons contemplé de très grands panneaux de nymphéas de Claude Monet. Ils étaient dans deux salles ovales.
Ensuite, nous avons participé à un atelier pour créer nos nymphéas.
Nous avons utilisé une technique japonaise qui s'appelle le suminagashi avec de l'eau, de l'encre et du papier de riz.
Nous avons appris plein de choses et avons beaucoup aimé ces sorties.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4 FM et c'est l'heure de Radio Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry.
Bonjour, nous sommes les Écomotivés de Molière et nous organisons dans les réseaux des défis que nous lançons à l'ensemble des familles ivriennes.
Aujourd'hui, nous allons interviewer Nathalie Houry de l'association Rejouer ainsi que Romane Baudouin de l'éco-organisme Écomaison.
Nous avons pu visiter le site Vitrock de l'association Rejouer et assister à un webinaire présentant Écomaison. D'où est venue l'idée de créer Écomaison? Que signifie pour vous un éco-organisme?
Bonjour, alors Écomaison est un éco-organisme, comme vous l'avez dit, donc c'est une structure qui est agréée par le ministère de la Transition écologique pour coordonner à l'échelle nationale des filières de collecte, tri, recyclage, réemploi de certains produits.
Quelles sont les ressources d'Écomaison?
Écomaison, en tant qu'éco-organisme, a donc pour ressource l'éco-participation. Donc en fait, c'est un petit montant qui est répercuté sur le consommateur, que vous allez payer lorsque vous achetez un jouet, par exemple, et qui est reversé indirectement, du coup, à Écomaison pour qu'on gère, pour le compte des producteurs de jeux et jouets notamment, mais aussi sur les autres filières, toute la coordination, en fait, de la collecte et de la fin de vie du produit.
De novembre à janvier, vous organisez dans l'Île-de-France la collecte pédagogique et solidaire de jouets. Pouvez-vous nous la présenter?
Alors, la collecte pédagogique et solidaire des jouets existe depuis 4 ans maintenant. Et elle a pour vocation de mettre en relation des établissements avec des associations en local autour d'une collecte qui n'est pas seulement une collecte, c'est aussi l'occasion pour vous, élèves et professeurs, de travailler sur différentes disciplines et notamment d'aborder certains enjeux comme le réemploi et la solidarité.
Est-ce que dès le début, beaucoup d'établissements ont collaboré avec vous pour collecter des jouets?
En effet, donc l'opération existe depuis 4 éditions maintenant. On a commencé avec 180 établissements de l'Académie de Versailles. Et cette année, on travaille avec plus de 340 établissements qui regroupent donc des établissements de l'Académie de Versailles et de Créteil.
Madame Horry, pouvez-vous vous présenter et présenter votre association ?
Donc bonjour, donc moi je suis Nathalie Horry, donc une des deux co-directrices de l'association Rejouer. Donc Rejouer, c'est une association loi 1901 qui est porteuse de ce qu'on appelle un atelier chantier d'insertion. Nous, notre objectif, c'est de donner une seconde vie aux jouets. On collecte, on trie, on nettoie, on remet à neuf des jouets d'occasion et on les remet en distribution ou les offre au sein de nos boutiques ou par le biais de cadeaux offerts à des enfants. Et la particularité de notre association, c'est que toutes les personnes qui travaillent à la remise à neuf de ces jouets sont des personnes qui ont du mal elles-mêmes à trouver du travail et qui, grâce à cette activité, vont retrouver le chemin de l'emploi.
Est-ce à la suite de la naissance de votre enfant que vous avez créé l'association Rejouer et pourquoi ?
Alors en fait, ce n'est pas moi qui ai fondé l'association Rejouer, c'est Claire Tournefier. Et en effet, c'est suite à la naissance de son enfant qu'elle a constaté qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient envie de lui donner des jouets et que du coup, il savait pas trop quoi en faire. Elle s'est aussi rendue compte, parce qu'elle était bénévole dans une association à ce moment-là, que même collecter des jouets pour une association, c'était pas facile et ça suffisait pas pour les remettre en circulation, parce qu'il fallait d'abord les vérifier, les compléter. Donc elle a eu cette idée à la fois de collecter ses jouets et de faire travailler des personnes pour les remettre à neuf de façon à ce qu'ils soient sécurisés au moment où ils retournent entre les mains d'autres enfants.
On a appris qu'un jouet servait en moyenne 8 mois. Quelles sont, d'après vous, les causes de la surconsommation des jouets ?
Alors, c'est vrai qu'un jouet, en moyenne, on constate qu'il n'est pas beaucoup utilisé. Mais il y a plusieurs raisons à ça. Tout d'abord, l'évolution normale de l'enfant. Il y a des jeux qui sont vraiment adaptés à certaines tranches d'âge, et notamment dans les premières années de sa vie, l'enfant va avoir des besoins différents, qui fait qu'un jeu, un jouet qui était adapté à lui à un moment donné ne l'est plus. Et s'il n'y a pas un petit frère, une petite sœur, il ne sera peut-être pas utilisé. Ça, c'est une première chose. Et puis après, il y a d'autres choses qui peuvent nous donner envie d'acheter des jouets. Il y a beaucoup de publicité. Donc on est vite influencé par tout ça. Il y a le fait que les copains nous proposent des choses, etc. Donc c'est aussi une envie générale et on peut aussi réfléchir sur est-ce que j'ai vraiment besoin de ces jouets-là. Donc je pense qu'il y a plusieurs choses. Voilà. Et puis ce qu'il faut, c'est de toute façon faire attention quand on veut un jouet, de se dire est-ce que j'en ai vraiment besoin, est-ce que je vais jouer avec et si je ne l'utilise plus, qu'est-ce que j'en fais ?
À combien s'élève le poids de jouets auquel vous avez donné une nouvelle vie et à combien s'élève le poids de jouets que vous avez récupéré depuis la création de cette association ?
Ouais, alors là, ça va être un petit peu une colle, hein. J'ai pas fait le calcul. Ce que je peux vous dire, en tous les cas, c'est que l'an dernier, on a collecté à peu près 37 tonnes de jouets. Que c'est une moyenne qu'on va avoir chaque année. On est parfois monté jusqu'à 65 tonnes et que l'association, elle est démarrée en 2012. Alors si vous faites le calcul, alors les premières années, il y avait un petit peu moins de collecte, bien entendu. Mais voilà, ça fait beaucoup, beaucoup de jouets qui ont été collectés. Et en moyenne, chaque année, c'est plus de 80 000 jouets qui sont remis en circulation. Et là, je ne les ai pas pesés, mais si on est autour de 600 grammes le jouet, peut-être un petit peu moins, ça fait quand même beaucoup.
Madame Baudouin, comment Écomaison accompagne les établissements dans ces collectes ?
Alors, le rôle d'Écomaison dans la mise en place de la collecte pédagogique, il est surtout un rôle de coordinateur, c'est-à-dire qu'on va être l'intermédiaire entre les établissements scolaires, les académies, donc notamment l'Académie de Versailles et l'Académie de Créteil, et les structures de l'économie sociale et solidaire qui travaillent avec nous et qui viennent récupérer les jouets dans vos établissements. Par là, on entend donc que Écomaison met à disposition des écoles et maintenant de certains collèges des contenants pour la récupération des jeux et jouets, des éléments de communication, des affiches, des mots que vous pouvez déposer avec vos professeurs dans les carnets de liaison. Il y a aussi toute une partie pédagogique avec des ressources qui sont mises à disposition des professeurs et des élèves. Et donc, ce sont notamment des ressources qui sont créées en se basant sur les programmes de l'Éducation nationale, en premier lieu avec l'Académie de Versailles. Et chaque académie a la possibilité de créer ses propres ressources ou d'utiliser les ressources proposées par l'Académie de Versailles.
Dans quelle autre filière que celle du jouet Écomaison est-il impliqué? Proposez-vous d'autres actions que cette collecte de jouets?
Alors oui, Écomaison est un éco-organisme qui est à l'origine agréé sur la filière des éléments d'ameublement, donc tout ce qui est mobilier. Et on a été donc habilité par les pouvoirs publics pour gérer le jouet récemment, mais aussi tout ce qui est les articles de bricolage et de jardin et une partie des produits et matériaux du bâtiment et de la construction. Dans le cadre de la filière jouet, on a lancé cette année une autre opération qui s'appelle, elle, la Grande Collecte Solidaire des Jouets, dont vous avez peut-être entendu parler, et qui a eu lieu sur tout le mois de novembre et qui a pour vocation de sensibiliser, au-delà des élèves dans les établissements, le grand public au sens large, sur le don et le réemploi solidaire.
Quel type d'emploi propose Écomaison et quelle formation avez-vous suivi?
Alors, en tant qu'éco-organisme, il y a des métiers très variés qui passent par la coordination d'actions sur le réemploi en lien avec les associations, d'actions portant sur la réparation. On a aussi un service qui travaille sur la recherche et le développement, sur l'éco-conception des différents produits, que ce soit le jouet, le meuble, les articles de bricolage et de jardin. On a aussi des métiers plus classiques, des juristes d'entreprise spécialisés en environnement, des métiers que vous pouvez connaître comme les comptables, etc. Et pour ma part, j'ai fait un master spécialisé en ingénierie des déchets et en économie circulaire.
Rejouer accompagne l'insertion professionnelle des personnes qui se sont éloignées de l'emploi. À quel moment votre association a-t-elle commencé à se développer et à quel moment avez-vous pu employer des gens afin d'aider les personnes en insertion?
Alors, Rejouer, comme je le disais tout à l'heure, a accompagné des personnes depuis l'origine, puisque ça fait partie vraiment de l'objectif même de Rejouer que d'accompagner des personnes éloignées de l'emploi vers l'emploi durable, vers une formation qualifiante à travers cette activité de remise à neuf des jouets. Donc, depuis 2012, nous accompagnons des personnes qui nous sont envoyées par différents organismes qui les accompagnent sur leur recherche d'emploi notamment.
Combien d'employés avez-vous actuellement et combien de personnes avez-vous lancées sur la voie d'une nouvelle profession?
Alors, à l'heure actuelle, parmi les salariés en parcours d'insertion, on a 45 personnes qui sont accompagnées, sachant que chez nous, les personnes, dès qu'elles ont trouvé un travail, s'en vont et on embauche une autre personne. Donc, sur l'année, on va plutôt accompagner entre 60 et 70 personnes. Et ça, chaque année. Voilà, depuis 2012. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de personnes accompagnées vers plein d'emplois différents, puisqu'il n'y a pas un métier spécifique. Et ce qui est sûr, c'est qu'ils ne feront pas du réemploi de jouets, mais qu'ils vont vraiment avoir l'occasion de faire plein d'autres choses dans leur vie et utiliser simplement les compétences qui ont été travaillées à travers l'activité de Rejouer, et notamment, et surtout d'ailleurs, la confiance en soi, le savoir-être, qui sont aussi des choses très importantes quand on recherche du travail.
L'équilibre financier de votre association est-il correct? Avez-vous fait des gains ou bien avez-vous perdu de l'argent avec ce projet?
Alors, l'équilibre d'une association telle que Rejouer, il est toujours fragile. On va dire qu'on arrive à l'équilibre à peu près chaque année. On est un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus. Mais il faut vraiment se battre pour être à l'équilibre. Et on est à l'équilibre grâce à différents soutiens, puisqu'en fait, on a à peu près un peu plus de 20% de l'argent qui vient du fruit du travail, donc de la vente de nos jouets. Mais on a aussi de l'argent qui arrive par des subventions publiques. L'État nous soutient pour notre mission d'insertion, par exemple, mais ainsi que les départements. Et puis, on a aussi des fonds privés qu'on doit aller chercher pour arriver à développer tous les projets qu'on souhaite mettre en place.
Merci à vous deux d'avoir répondu à nos questions. Au revoir.
Chers auditeurs et chères auditrices, dans le réseau Molière, nous vous lançons un premier défi. Serez-vous cap ou pas cap de donner une seconde vie à vos jouets en faisant un don à une association ? Dès maintenant et jusqu'au 15 janvier, vous pouvez déposer vos jouets dans les bacs à collecte présents dans les écoles et le collège du réseau.
On compte sur vous, merci beaucoup.
Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable.
Vous allez entendre la rencontre entre Laure Vandeninde, ancienne photojournaliste, et le public présent au Petit Robespierre le 22 novembre 2025 pour la journée des droits de l'enfant.
J'ai donc été journaliste en presse écrite pendant 5 ans. Donc c'est pas très longtemps, mais pendant 5 ans. Donc j'ai appris à écrire une information sourcée, qui soit factuelle, à vérifier l'information, à la rédiger, à la mettre en forme. Et ensuite, je suis devenue photojournaliste. Donc là, mon métier a changé, mais néanmoins, ça restait au service de l'information. Mais mon médium principal est devenu l'image. Ceci dit, une image n'a aucune valeur si elle n'est pas accompagnée d'une légende. Et cette légende, c'est l'information.
Alors, on viendra sur les détails après par rapport au fait que tu travaillais pas dans un journal directement, mais dans une agence de presse. Et là, juste, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as amené comme photo, puisqu'on a beaucoup de photos étalées devant toi?
Bien sûr. J'ai fait exprès de prendre des photos assez variées, dans des thèmes variés. Je dirais c'est un peu le reflet de mes journées. Je ne faisais jamais la même chose, je n'étais jamais au même endroit. Et dans une même journée, je pouvais couvrir entre 2 et 4 sujets. Alors, je précise qu'il n'y a pas de légende qui accompagne les photos. Donc forcément, il n'y a pas de contexte. Donc c'est justement ça qui est important. Les 5 W, enfin en tout cas, le contexte est très important. Quoi, comment, où, pourquoi. J'ai pas mal de photos alors en politique. Donc j'ai couvert les élections de 2012. Je voulais aussi montrer qu'on couvre des événements saisonniers. Donc on appelle ça aussi des marronniers, qui reviennent tous les ans. Donc ça peut être le marathon. J'ai couvert des événements loisirs, culture, divertissement. Donc les Césars, le Festival de Cannes. Voilà, j'ai aussi fait des photos de concerts. J'ai suivi des hommes et des femmes en politique. Et j'ai aussi couvert les Fashion Week. Donc, l'idée, c'était de faire des photos de défilés. Mais en fait, le plus important, c'était de faire des photos de célébrités. Là, il n'y a pas de regard particulier. C'est juste obtenir la photo, peut-être l'obtenir mieux que le voisin, et l'envoyer très vite pour la vendre.
Reportage dans mon cartable.
C'est qui ?
Des supporters.
Il a reconnu que c'est des supporters.
Oui.
Ça concerne le foot.
En effet.
Voilà.
Oui.
C'est ce qu'il a dit.
Tu veux que je t'en parle ? C'était l'Euro en 2016. C'était la France contre le Portugal. Ce sont des zones où les supporters se réunissent face à des grands écrans. Donc il faut être accrédité, évidemment. On ne rentre pas dans cet espace n'importe comment. On a le droit d'aller dans des fosses, les endroits vides entre l'écran et les supporters. Seuls les photographes ont le droit d'aller. Donc on peut naviguer de droite à gauche et on fait ce qu'on veut, on est plutôt libre. Par contre, on peut aussi choisir d'aller en plein milieu de la foule. Est-ce que je peux aller là ? Qu'est-ce que ça donne si j'essaye ça ? Et si je me rapproche ? Et si je me recule ? C'est le principe de la photo. Et là, on se dit, bon, qu'est-ce que j'ai envie de montrer et qu'est-ce que je vois qui peut être visuellement intéressant à montrer. On peut prendre un élément, mais on peut prendre aussi toute la scène. Donc, dans ces 6 photos, pour revenir à ce cheminement-là que j'ai voulu montrer, je montre au loin, je me rapproche avec la foule et une personne, je me rapproche encore. Et là, je pense qu'on n'est pas loin peut-être de marquer un but et la foule commence à s'agiter et à montrer comme... voilà, son émotion très forte. Et ce qui est intéressant, c'est de prendre les expressions des supporters, la fougue. Et en fait, au bout d'un moment, en fait, la France perd. Et là, on voit l'émotion, les gens qui commencent à prier, on voit des grimaces et on voit les pleurs, quoi. Quelque chose que j'ai voulu montrer, évidemment, puisque c'est ce qui s'est passé.
Oui, petite question par rapport au droit à l'image. Est-ce que vous êtes autorisé, quand vous prenez des photos dans un stade, à les divulguer sur n'importe quel, sur n'importe quel support après ?
Alors en fait, c'est l'actualité. C'est-à-dire que quand il y a une actualité et qu'en plus c'est dans un lieu public, l'actualité prime, surtout quand il y a un effet de foule et que c'est la foule, ça prime sur le droit à l'image, enfin sur le voilà, de la personne en tout cas. Voilà. Parce que le droit d'auteur, c'est côté photographe, c'est les droits que moi j'ai sur mes photos. Le droit à l'image, c'est la personne qui peut dire ah moi j'ai pas envie d'être pris en photo.
Mais après pour la publier, vous êtes propriétaire.
Oui, moi je reste propriétaire de mes photographies. Aujourd'hui en numérique. Le fait d'avoir des photos dans un format RAW, R-A-W, c'est la preuve que ce sont mes photos, d'un point de vue technique. Le fait qu'elles soient diffusées, bien sûr, on ne le voit pas ici, mais celles qui sont diffusées, il y a marqué C, copyright, Laure Vandeninde, / agence, agence. Sachant que les agences peuvent se revendre les photos. Alors une agence de presse, c'est un organe de médias qui va recueillir toutes mes photos, qui va parfois légender pour moi mes photos, mais moi je faisais tout de A à Z, et qui elle a des contrats avec toute la presse, alors ça dépend donc des agences, en France et à l'étranger. Donc quand eux reçoivent la photo, ils vont proposer mon reportage ou mes photos aux magazines, aux journaux avec lesquels ils travaillent.
Dans la photo que j'ai choisie, j'ai remarqué que c'est dans la 40e cérémonie du César et que là, il y a deux acteurs qui l'ont remporté.
À gauche, c'est Kristen Stewart, un film de vampire très connu, Twilight. Hein. Et à droite, c'est Sean Penn. Donc là, il n'y a pas de démarche particulière. Il faut que cette photo soit juste techniquement propre et que je l'envoie très vite. Parce que voilà, en agence de presse, là, c'est être là au bon moment. À l'extérieur, je me suis placée une heure avant, voire deux heures avant, devant les barrières pour avoir les photos. Ensuite, on est accrédité, on rentre. Là, c'est quand les acteurs arrivaient comme une sorte de tapis rouge. Ils défilaient et surtout, c'est que j'essayais de prendre des photos où les gens me regardent ou donnent l'impression qu'ils me regardent. C'est un peu la pagaille, c'est-à-dire que il y a tous les photographes en ligne et en fait on crie. On dit hey, Sean Penn, je suis là, regarde, oh salut. Voilà, pour avoir le regard, l'attention, une belle expression. C'est un exercice un peu particulier. Et en effet, il faut courir, c'est très physique. Il faut évidemment avoir le matériel prêt, les piles, la carte mémoire, hein, évidemment, je le précise, mais néanmoins, c'est pas un détail. Ça arrive qu'il y ait des soucis pour avoir une jolie photo qui puisse être diffusée facilement.
Est-ce qu'ils ont le droit de porter plainte parce que vous avez pris la photo ?
Non, en fait, ils sont là pour ça. Ils sont très beaux, ils sont bien habillés. Donc, en plus, même leurs vêtements, il y a des marques. C'est pas par hasard. Ils vendent ces marques, hein, c'est comme à Cannes. Ils sont en lice pour obtenir, justement, le César. Donc, au contraire, ils sont tout à fait partants. Ils sont très contents d'être pris en photo. Ça leur fait de la publicité. Les acteurs ont besoin de se faire connaître et de faire connaître leur travail pour exister. Par contre, je précise qu'en effet, des photos qui sont prises chez eux, à leur insu, et qu'ils ne le souhaitent pas dans la rue, là, en effet, ils ne sont pas contents. Ils ne portent pas plainte parce que c'est un peu le jeu aussi quand on est célèbre. C'est pas simple pour eux. Là, dans ces cas-là, en effet, il y a un problème éthique.
Le monsieur, là, il est en train de faire du ski. En fait, j'ai jamais vu, il y a de la neige sur la tour Eiffel, moi. C'est la première fois que je vois ça sur une photo.
Alors, ce sont des photos de Paris, sous la neige. Ça aussi, ça fait partie du travail de photojournaliste. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau, c'est le principe de l'information et de l'actualité. C'est quoi de neuf ? S'il y a quelque chose de nouveau, il faut en parler. Donc, à l'écrit, ou à la radio, ou en photo. Il se trouve que quand il neige, c'est très visuel. Quand il s'est mis à neiger à ce moment-là, je suis partie très tôt le matin. Je me suis dit, je vais aller à la Tour Eiffel, je vais aller à Montmartre, je vais aller sur les sites les plus reconnaissables pour qu'on se dise, ah oui, c'est bien Paris. Et je vais prendre les plus jolies photos que je peux avec Paris sous la neige. Donc là, ce que tu vois, il y a en effet la tour Eiffel avec de la neige. On voit des gens qui skient. Ils sont avec du ski de fond. Donc c'était assez étonnant. J'étais très contente de les trouver. Je trouvais que ça pouvait faire une belle photo. Et pour l'anecdote, là, c'est ces gens qui sont en ski de fond. J'ai pas pu faire la photo que je voulais. J'étais très contrariée parce qu'il y avait des caméramans qui leur couraient après. Et on était tous en train de se battre pour avoir la photo parce que des gens... Ce qu'ils font avec la tour Eiffel, la neige, c'était quand même très visuel et très beau à faire. Et je voulais une pleine page. Pleine page, ça veut dire une photo horizontale. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, la photo que tu as, elle est verticale. Mais parce qu'il y avait une caméraman qui me bloquait l'accès à cette belle photo que j'imaginais dans ma tête. Pourquoi une pleine page horizontale? C'est parce que les magazines vont acheter une photo qu'ils vont imprimer sur deux pages, comme ça. Et c'est des photos qui coûtent très cher. Donc, pour moi, c'était très bien que je fasse une photo horizontale. Là où tu vois une personne avec une luge, c'est Montmartre. C'est-à-dire que, tu sais, il y a une butte. Et avec la neige, les gens sont venus avec leur luge et se sont mis à faire de la luge à Montmartre. Mais c'est ça qui est rigolo, moi, je trouve, dans cette photo. C'est qu'en fait, les gens, ils se sont adaptés. Et ça peut faire une belle image et peut-être une belle histoire. Pourquoi ces photos-là, vous pouvez me dire... Il n'y a rien d'incroyable. Des fois, on ne fait rien d'incroyable, mais c'est une actualité. Il neige à Paris. C'est une information.
Reportage dans mon cartable.
Sur cette photo, je vois le président Macron qui est jeune, dans une salle avec plein d'autres personnes. Et il n'est pas encore président.
Là, c'est une photo d'Emmanuel Macron. Donc, en fait, cette photo... C'est à l'époque le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, qui visite l'Eurosatory, donc c'est au Bourget. C'est un salon international qui parle de la défense et de l'armement, le 16 juin 2016. Il y a de nombreux photographes qu'on ne voit pas, là on voit juste le résultat, mais derrière moi, on doit être, je pense, une quinzaine, vingtaine. Comment dire, on se bat un peu, mais gentiment, hein, parce que ça reste bon enfant, pour en effet avoir le bon angle. Pour avoir cette photo où en fait il est quand même dans un char, donc déjà il y a quelque chose d'assez visuel qui intéresse tous les photographes. Et il faut aussi se dire que là on nourrit une certaine communication en fait. Donc nous dans ce cadre-là, on va faire la photo, les photos. Et là où ça peut être intéressant, c'est qu'on peut se décaler et peut-être apporter un autre angle et peut-être aller prendre l'image qui n'est pas attendue. L'image en question, en tout cas, on voit Macron, on voit le char, on voit... Voilà, on peut y avoir un symbole, je ne sais pas, de puissance. Puis voilà, c'est la défense quand même, ce n'est pas neutre. Il y a quand même... lui veut montrer quand même la puissance. Et bon, cette image, bon, relate l'événement. Et après, le média qui va peut-être acheter cette photo, parce qu'on ne le sait pas, hein, lui, il va accompagner cette photo d'un texte. Et moi, je ne sais pas de quel texte il s'agit. Ça peut être peut-être à charge, mais ça peut être aussi un autre discours, en fonction d'ailleurs de l'obédience du magazine. Voilà, et ça c'est aussi, certains photographes refusent de diffuser leurs photos dans certains magazines.
La mamie là, non, la senior... La senior, là, avec les cheveux, c'est la reine de l'Angleterre.
La reine Elisabeth, oui, qui est décédée. Et en effet, en fait, là, c'est à l'Élysée. Et en fait, François Hollande, à l'époque président de la République, a reçu la reine Elisabeth II. En tant que photographe, on est accrédité. On est tous la meute de photographes dans un espace réservé. Et on prend la photo où ils se disent bonjour, où ils font des sourires. Et voilà, c'est tout. Donc, c'est très officiel. Mais c'est un beau souvenir parce qu'elle avait fait, elle avait fait une visite et elle était allée dans plusieurs endroits connus de Paris et on l'avait suivie à plusieurs endroits. Voilà. Il y a aussi une photo qui m'amuse beaucoup. C'est que là, il y a Angela Merkel, qui est l'ancienne chancelière allemande. Et là, je me suis bien amusée. Au moment où je prends la photo, on a l'impression qu'ils vont s'embrasser. Donc, quelque part, oui, peut-être que le sous-titre, c'est « Ah, Angela Merkel et François Hollande sont un couple ». Non, c'est faux. Et donc, il y a des fois, on peut s'amuser, et vraiment. Mais et puis, des fois, il y a des sujets sérieux, et il faut les prendre, évidemment, très sérieusement. Quand on prend une photo, on fait des choix. Je peux prendre un élément et en effet donner un sens différent. C'est un exemple un petit peu superficiel, mais dans les magazines un peu people, on va dire, on peut faire parler les célébrités en disant qu'elles sont tristes, parce qu'au moment où on les prend photo, elles sont en train de baisser le regard et d'avoir une mine un peu déconfite. Et puis juste après, y en a un qui raconte une blague et tout d'un coup, il sourit. Et là, le magazine People va dire « Ah non, mais ils sont très heureux. » Donc on peut dire tout n'importe quoi en fait. Bon là c'est anecdotique, mais c'est vrai qu'en tant que photographe et photojournaliste au service de l'information, faut faire attention de ce qu'on veut dire, sachant qu'on a aussi nous nos opinions, on est humain, qu'il y a peut-être des choses trop belles qu'on n'a pas envie de faire passer comme belles. Une photo ça peut être esthétique, mais peut-être que l'information ou ce qui se passe devant nous, on la trouve pas très belle. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et puis des fois la photo elle n'est pas censée être belle, elle doit dire quelque chose ou raconter quelque chose d'important. Dans le journalisme il n'y a pas de vérité, il y a une honnêteté, voilà. On est honnête, le plus honnête possible, et en effet avec une éthique au maximum, voilà. Donc on essaie d'être le plus honnête possible.
Merci beaucoup Laure et merci à Cita pour le micro, merci tous les enfants.
Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère-Marie Marchand, avec à la technique Flo Descailloux et encore Gaëlle de Radio Cartable, que nous saluons bien amicalement. Aujourd'hui, on va vous parler d'un phénomène. Céline, vous connaissez tous, je suppose, et nous allons en parler, sont ces aspects un peu méconnus de Louis-Ferdinand Céline, avec David Labreur, qui vient de publier aux éditions Parigramme Louis-Ferdinand Céline, d'un Paris l'autre. C'est un livre, c'est un beau livre, avec des illustrations sur les déambulations qu'on pourrait faire sur l'époque de Céline dans Paris. Et puis alors, comme derrière tout écrivain, tout homme, il y a une femme. Et j'ai beaucoup aimé le livre de Véronique Chauvin qui vient de paraître au Mercure de France. C'est Céline en héritage, mais c'est consacré à Lucette des Touches, Lucette Almanzor, qui a été la femme de Louis-Ferdinand Céline et qui est vraiment Lucette. Il fallait lui rendre hommage. Et je trouve que c'est un personnage pour moi très attachant, Véronique Chauvin, que vous nous avez dans un petit livre. Alors, vos deux livres, j'allais dire, se complètent. On a à la fois une sorte de cartographie imaginaire dans un Paris que j'adore, c'est le Paris de Montmartre, c'est le Paris de nos grands-parents, arrière-grands-parents, Paris des Faubourgs, donc le livre de David Labreur. Et puis Véronique Chauvin, c'est On va à Meudon, là, c'est l'époque d'une certaine solitude avec Lucette. Alors ma première question à tous les deux, je voudrais savoir comment vous avez connu Céline, comment vous êtes tombée dans la marmite célinienne. Allez, Véronique Chauvin.
Allez, je vous sens que vous... Moi, j'ai connu Céline un jour où j'étais dans une maison de campagne de famille et où je dormais dans une chambre où il y avait toute une bibliothèque et il y avait le livre de poche de Céline, Voyage au bout de la nuit, avec, vous savez, le personnage comme ça, le Fierrot qui avance les mains. Et j'ai été fascinée par cette couverture. Et donc, j'ai pris le livre, j'ai lu l'introduction. Ah, on remet le voyage en route. Et tout de suite, j'ai été happée par cette langue. J'ai passé la nuit entière à lire le livre. Je devais avoir 14-15 ans. Ah ouais. Je ne comprenais pas tout, mais j'étais fascinée par la langue. J'ai toute la nuit, j'ai lu le livre et le lendemain matin, c'est la seule fois de ma vie, je l'ai volé. Et donc, j'ai toujours ce livre et je l'ai emporté dans ma valise. Donc, voilà ma première rencontre avec Céline.
Ah bah, voyez, quand je vous disais que c'était un phénomène en plus. Ouais. Et vous, David Labreur, vous êtes aussi un phénomène, David Labreur, parce que je vais vous présenter, vous occupez, enfin, vous dirigez la maison-musée d'Auguste Comte à Paris, hein, que nos auditeurs peuvent aller visiter d'ailleurs.
Oui.
C'est une maison assez fascinante. Avec, alors vous passez d'un excès à l'autre, parce qu'Auguste Comte, c'est la raison, la mesure, mais Céline, c'est la démesure. Alors comment ça se fait que vous avez recroisé la route de Céline
En fait, c'est deux personnages qui sont assez fous l'un l'autre, parce que même Comte avait été interné. Donc
voilà,
bon,
bah alors,
il a fait une tentative de suicide. Enfin, il est plus fou que son aspect austère le laisse penser. Alors Céline, c'est très très proche de Véronique. C'est ça qui est absolument incroyable. C'est que j'ai découvert au même âge à peu près. Alors, c'est à 14 ans, parce que j'étais encore en troisième. Et cette même édition du Pierrot, c'est le livre de poche, mais qui était dans la bibliothèque de mon grand-père. C'est mon grand-père qui m'a dit « Lis ça ». Tu verras, enfin bon, je lisais beaucoup Jules Verne, je lisais pas mal de choses, plutôt romans, aventures.